Voilà, donc en fait, cette histoire de macarons, c'est quand même lié à un verset hein, de Pierre, étonnamment, qui dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc c'est pas quelque chose qui fait appel à notre intellect, mais quelque chose qui fait appel plutôt à nos sentiments, voilà, quelque chose qui n'est pas dans notre cerveau, vraiment, en tout cas pas dans le raisonnement. Alors, tu peux passer au slide suivant, puis encore un clic. Voilà, donc comme introduction de dire que, en fait, ce matin, on va parler de notre relation avec Dieu, mais que cette relation, en fait, elle est d'abord, c'est d'abord une histoire personnelle. Donc chacun de nous, on a notre propre vécu, on a notre propre vécu aussi dans la foi, notre propre histoire. Voilà, certains sont nés chrétiens en étant tout petits, sont devenus chrétiens en étant tout petits, d'autres sont devenus chrétiens plus tard, à l'adolescence ou même en étant adultes. Et que tout ça, c'est important, ça fait partie de notre relation avec Dieu. Et on a tous des expériences différentes aussi, en fonction du contexte familial dans lequel on vit. Des expériences différentes aussi en termes de parcours de vie, hein, de souffrance, de maladie, de bonheur, etc. Et puis finalement, on a tous un regard particulier sur Dieu et notre expérience avec Dieu. Elle n'est pas uniforme entre nous, même si Dieu c'est notre point commun. On parle tous de la même chose, on parle tous de notre foi, on parle tous de Jésus-Christ, mais on a aussi voilà un regard particulier. Voilà, il s'explique aussi que chez les chrétiens, ben, il y a des chrétiens de tendances différentes les unes des autres. Hein. Voilà. Et maintenant je laisse. Ah non, pas tout à fait encore. Voilà, je laisse bientôt Estefania parler de la pomme. Donc en fait, le sujet un peu de notre message, on l'a appelé la pomme, c'est pour qui? Non, attends. Et en fait, ce que vous allez voir, il va y avoir une image. Et j'ai beaucoup hésité à censurer cette image ou pas, pendant très longtemps, parce que ça fait une année que j'ai découvert cette image et que je pense à cette image. J'ai beaucoup hésité de la censurer, et puis finalement j'ai décidé, non, je la laisse telle quelle, je ne la censure pas, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une image d'un journaliste italien, donc qui publie des caricatures dans les journaux, c'est un peu comme Chapat, et je me dis, c'est jamais bien de censurer hein, quelqu'un qui caricature. Et puis d'autre part, parce que ça fait partie de l'ensemble des personnages que vous allez voir, ça fait partie de notre histoire aussi. Donc j'ai décidé de la laisser comme ça et je m'excuse auparavant si cette image elle est choquante pour certains d'entre vous. Voilà, tu peux faire un clic.
Et voilà la pomme sur un plateau. Donc vous reconnaissez peut-être certains personnages. Donc pour moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais en fait, tous ces personnages voient la pomme d'une certaine manière, en fait. Chacun dans son contexte, mais finalement, c'est pas la pomme qui est importante. C'est un peu le prétexte, et puis Dieu, il utilise la pomme, il aurait pu utiliser n'importe quel autre objet. On voit souvent dans les paraboles, en fait, qu'il utilise des paraboles pour nous apprendre des choses, pour nous mettre en route. C'est vraiment une manière de nous interpeller. Et puis finalement, la pomme, là, pour tous ces personnages, c'est un peu un intermédiaire. Donc, si vous regardez, vous avez Adam et Ève, hein, ben, ce qui était le fruit défendu, le fruit de la connaissance auquel ils n'avaient pas le droit de toucher. Il y a le serpent qui était bien malin, qui savait ce qu'était la pomme, donc qui a utilisé la pomme pour les tenter. Il y a Blanche-Neige aussi, peut-être que vous la voyez en bout de table là. Pour qui la pomme, c'était une très belle pomme, bien grosse, bien juteuse, bien brillante. C'était aussi le moyen qu'avait la sorcière qui est en face d'elle pour la tromper. La sorcière qui est un peu aussi le serpent finalement. Et puis la pomme, elle met chaque fois des personnages ensemble finalement, en relation à quelque part. Donc pour Adam et Ève, ben, c'était aussi la perte du paradis. Pour Blanche-Neige, c'était le sommeil, hein, la mettre dans un sommeil profond. Et puis après, je ne sais pas si vous remarquez là, c'est Bill Gates. Bill Gates, ou voilà, qui est...
Non, c'est Bill Gates.
Non, c'est Bill Gates.
C'est Bill Gates parce qu'il est devant un ordinateur qui est Windows, qui est pas Microsoft.
Microsoft. Ben, c'est l'opposition, Bill Gates, l'opposition par rapport à la pomme. Voilà, toujours en compétition. Et puis la pomme, alors c'est un peu le symbole de New York. Alors est-ce que New York est le paradis, pas le paradis ? Enfin voilà, est-ce que finalement New York est devenu un paradis financier, hein, grâce à l'info ? Il y a Guillaume Tell aussi. Donc Guillaume Tell, la pomme, la plantation de la pomme. Alors c'était aussi un moyen de montrer sa suprématie, son invincibilité. Et puis dans ce cas-là, on ne voit pas forcément la pomme comme un danger. Mais voilà. Après, il y a encore... Moi, je ne l'ai pas trouvé. Il y a Newton aussi.
Oui,
mais moi, je ne l'ai pas reconnu. Je pensais, je ne sais pas, Voltaire, Rousseau, la nature, tout ça. Exactement, la théorie de la gravité, la pomme qui tombe, et tout d'un coup, de découvrir en fait cette incroyable théorie. Et puis, il y a encore deux autres personnages où moi, je n'ai pas réussi à les trouver, qui sont des personnages grecs. Et là, je ne vais pas me lancer dans l'explication, donc je te laisse...
Je donnerai l'explication plus tard sur ces deux personnages.
Ok. Donc voilà. Donc en fait, on voit vraiment que la pomme, c'est vraiment. Voilà, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, quoi. Mais ça met. Voilà, ça interpelle à chaque fois. Ça montre des travers aussi de notre humanité. Mais en tout cas, pour Adam et Ève, c'était voilà, un moyen qu'avait trouvé Dieu aussi pour nous interpeller, pour nous mettre en route.
Voilà. Donc on peut passer au slide suivant et on va commencer par Adam et Ève. Mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose d'ensemble. Pour vous, l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce que ça évoque comme différents mots ? Si vous me donnez des mots comme ça, l'histoire. M-O-T, donc A ou M-A-U-X, ça dépend, voilà. Hein, est-ce un bien, est-ce un mal ? Ok, d'accord. Quelque chose d'autre ? Oui. L'histoire d'Adam et Ève et Dieu.
Le péché.
Okay. La désobéissance.
La séduction,
oui. Pas mal. Rapport homme-femme, exactement. Donc Frédéric, tu peux appuyer sur le prochain. Voilà, donc j'ai mis un certain nombre de mots ici liés à l'histoire d'Adam et Ève et de leur relation avec le serpent, hein. Et puis de leur relation aussi avec Dieu, finalement. Je commence par le mot ruse. Le serpent était le plus rusé des animaux. On peut toujours se poser la question en disant, mais Adam et Ève, ils étaient très innocents peut-être, mais ils vivaient dans un monde où il y a quelqu'un qui n'était pas aussi innocent que ça. Autour d'eux, le serpent, il a aussi utilisé la tromperie pour tromper Adam et Ève, puisqu'il leur a dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ? Donc il les a tentés par une question, par une tromperie, il leur a menti aussi par rapport à l'intention de Dieu. Et puis finalement Adam et Ève, c'est aussi une histoire de nudité, hein. Ils étaient nus dans ce paradis, et puis à un moment donné leurs yeux se sont ouverts, et puis il y a une notion de honte à quelque part qui vient, ils se cachent par rapport à Dieu, ils fuient dans un coin, hein. Dieu, quand il vient dans le jardin, il leur pose la question en disant « Où êtes-vous ?» Puis Adam et Ève, j'ai mis, c'est aussi une histoire de poutre et de paille. C'est le début, comme tu disais, de la relation homme-femme. Mais cette relation, elle ne commence pas si bien que ça, hein, puisque quand Dieu il demande à Adam, il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» En fait, il dit « C'est pas moi, c'est elle. » Et en fait, on retrouve dans le Nouveau Testament la poutre, la paille, hein, c'est toujours la faute de l'autre et c'est pas ma faute. Donc c'est le début aussi d'une relation compliquée au niveau du couple. Et en même temps, à la fin, c'est quand même une histoire positive parce que c'est une histoire de confiance aussi avec Dieu. Et Frédéric, tu peux cliquer sur le prochain où j'ai mis un verset qui vient de la Genèse où à la fin de toute cette histoire... L'histoire de la pomme, c'est quand même une histoire de mort aussi, hein, dans ce début de la Genèse. Mais on voit qu'à la fin de l'histoire, Adam donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire celle qui donne la vie. Et Ève a été la mère de tous les vivants. Et en même temps, donc, non seulement c'est une histoire de confiance, c'est-à-dire Adam reprend confiance, hein, en disant par rapport à Dieu, en disant on ne va pas mourir, Ève va devenir la mère de tous les vivants, et en même temps c'est une histoire d'amour de Dieu pour Adam et Ève, puisque c'est Dieu qui fait des habits de peau pour Adam et Ève et qui les revêt. Donc en fait il va aussi vers eux dans leurs conditions là où ils sont, il les rejoint et il les revêt. Et Frédéric, tu peux cliquer sur la encore une dernière chose, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, ouais, c'est petit hein. En fait c'est dans chaque slide vous allez voir la main de Dieu, c'est en fait Michel-Ange hein, qui avait dessiné la création avec la main de Dieu et la main d'Adam à la chapelle Sixtine. Et en fait ici j'ai mis une main de Dieu qui vient repêcher comme ça l'homme qui est tout en bas, mais désolé on ne la voit pas bien sur le slide. Voilà pour Adam et Ève. On peut passer au suivant. Blanche-Neige. Qu'est-ce que ça évoque Blanche-Neige pour vous? Disneyland. Les sept nains. Il y a quelque chose avec les sept nains. Tu verras tout à l'heure. Oui. La naïveté. L'innocence. Ouais. La blancheur. Qui c'est qui a lu Bettelheim, psychanalyse des contes de fées? En fait, quand j'étais ado, la psychanalyse, moi, ça m'intéressait beaucoup. Et je suis content de pas en avoir fait et de ne pas être devenu psychanalyste. Je n'aurais pas supporté. Mais, donc Bettelheim, hein, il a écrit sur tous les contes de fées de Grimm en donnant une interprétation psychanalytique des contes de fées. Et Blanche-Neige, moi, souvent, me fait penser à ça, quoi, parce qu'il a une analyse très poussée de Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, Frédéric, tu peux appuyer. Ben, Blanche-Neige, c'est d'abord la jeunesse. Quelqu'un qui est très innocente aussi, puisqu'effectivement, elle ne se rend pas bien compte de ce qui se passe autour d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui est la plus belle, qui devient la plus belle du royaume, mais je ne pense pas qu'elle en soit consciente. Innocente, donc elle vit dans ce monde où elle doit fuir, mais finalement elle vit dans ce monde avec les sept nains. Et effectivement, les sept nains, ben c'est l'enfance, hein, c'est l'enfance, c'est l'innocence. C'est un milieu protégé aussi. C'est un milieu où, de nouveau, elle ne se rend pas bien compte de ce qui se passe autour d'elle. Et puis finalement, ben Blanche-Neige, dans ce milieu, je dirais, de naïveté, de protection, etc., malgré tout, elle meurt. Elle meurt au bout d'un moment. Et je me dis, mais dans notre relation avec Dieu, on peut être aussi dans ce monde-là de naïveté, d'innocence, de fraîcheur, mais en fait, on a besoin de grandir. Et si on ne grandit pas dans notre relation avec Dieu, si on reste dans ce monde d'innocence, etc., finalement, on aboutit dans une situation d'empoisonnement, on va dire, hein, de peut m'empoisonner et on meurt. Donc on a besoin de grandir. Et par rapport à Blanche-Neige, j'ai mis un verset. Que celui-ci, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc c'est ce verset de Pierre où on doit désirer, on doit goûter, on a goûté que le Seigneur est bon, mais en même temps on doit avoir un désir de croissance en fait dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu. Et tu peux cliquer, voilà, on ne le voit pas bien, mais dans la main de Dieu, désolé, c'est vraiment trop petit, mais en fait c'est la main de Dieu qui est faite sous forme de mandarine dans deux assiettes, qui est faite avec des mandarines dans deux assiettes, et voilà, ça représente la jeunesse, simplement la jeunesse elle vient toujours avec des idées nouvelles comme ça, et des réinterprétations nouvelles. On peut passer au suivant. Newton. Donc Newton, pour ceux qui ont lu la rubrique Abrac dans leurs années de jeunesse, on voit la pomme et la pomme et la pomme et l'histoire de la pomme de Newton, donc une découverte de la gravité, en fait, de la part de Newton. Et Newton, ça représente pour vous, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Une idée de mots?
La logique.
La logique, oui. La science. La sagesse. Voilà.
La raison,
exactement. Donc tu peux afficher, parce que c'est à peu près tous les mots que j'ai mis là autour. Donc je vais commencer effectivement par la raison. Et en fait, c'est une époque où on a commencé à faire la différence entre la raison et la foi. Et souvent, c'est toujours un discours d'actualité, en disant qu'est-ce que du domaine de la foi, qu'est-ce que du domaine de la raison, et comment concilier l'un et comment concilier l'autre. Et c'est clair que c'est une période où la science a commencé à questionner l'historicité de ce qu'on trouvait dans la Bible. L'archéologie aussi a commencé à mettre en évidence certaines contradictions, peut-être, par rapport au texte de la parole. Il se pose la question en disant comment on peut approcher, comment on peut garder notre foi tout en ayant un raisonnement derrière. Et c'est une problématique pour chacun d'entre nous finalement, parce que soit c'est un domaine qu'on évacue complètement en disant il n'y a que la foi, soit c'est un domaine où on perd la foi en disant il n'y a que la raison. En fait, on a, c'est à chacun d'entre nous finalement de trouver notre chemin dans cette histoire de foi et de raison. Newton, j'ai mis loi de l'univers aussi, puisque c'est effectivement la gravité. La logique, on l'a mentionné, les sciences. L'évolution, mais je n'ai pas tellement mis le mot évolution par rapport à l'évolution de l'histoire de l'homme ou de la planète. J'ai mis l'évolution par rapport à notre propre chemin avec Dieu, finalement. Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on passe d'une Blanche-Neige innocente à un Newton qui est peut-être plus réfléchi, mais tout en gardant derrière notre foi avec Dieu? Et ça dépend fortement du contexte dans lequel on vit, parce qu'il y a des chrétiens qui peut-être resteront toujours dans un domaine où pour eux tout ce qui est la science et le raisonnement et la logique, c'est quelque chose de difficile à saisir. Et puis de l'autre côté, on aura des gens très intellectuels où ils auront beaucoup de problèmes avec la foi, parce que tout ne s'explique pas par la logique non plus derrière. Et finalement, j'ai mis un dernier point qui est important personnellement pour moi aussi. J'ai mis la critique historique, c'est-à-dire que souvent on lit la Bible simplement en prenant la parole telle qu'elle est pour nous, et c'est excellent. Mais ces temps, moi je suis encore plus enrichi finalement en regardant le point de dire la Bible, elle est inspirée de Dieu, mais en même temps elle est écrite par des hommes dans un contexte, dans leur contexte historique de l'époque, que ce soit au temps des rois, que ce soit au temps du Second Temple, que ce soit au temps de la déportation à Babylone. Et c'est important de tenir ça en compte aussi. Ça enrichit en fait ma foi de voir dans quel contexte ces livres ont été écrits. On parle souvent aussi de la période du Deuxième Temple, de la période du retour à Babylone, en disant la plupart des écrits bibliques de l'Ancien Testament ont été écrits au retour à Babylone, pour renforcer l'histoire d'Israël, pour renforcer l'histoire d'un peuple, etc. Et ce n'est pas forcément contradictoire, c'est-à-dire que ce n'est pas ou l'un ou l'autre. La parole, elle est tout autant efficace pour moi, mais en fait, je la trouve encore plus enrichie si un contexte qui est mis autour de cette parole. Et comme verset, j'ai mis ce texte dans les Actes 17, qui est dit « Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté ». Ça me semble important, ce premier passage, en disant on parle de bonne volonté, d'avoir une bonne disposition pour recevoir la parole de Dieu. Mais en même temps, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir s'il en était ainsi. Donc c'est-à-dire de recevoir la parole, mais en même temps d'avoir un regard critique, personnel, assumé sur la parole qu'on reçoit. Tu peux cliquer sur le point suivant. Voilà, et on voit toujours le doigt de Dieu, mais cette fois-ci, c'est un peu différent puisqu'il y a toute la question des lois de l'univers qui se trouve derrière ce doigt de Dieu. On peut passer au suivant. Donc c'est bien Bill Gates. C'est bien Bill Gates qui est devant son ordi PC personnel. Si on parle de Bill Gates, qu'est-ce qui vous vient à... ou de Microsoft, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Beaucoup d'argent. Fondation.
Les clients payent pour mettre à ce test.
Ouais, ok. Générosité. Ok.
Le dos. Un petit mot sur le dos. Effectivement, j'ai relu un peu hier. Dans les années 70-80, en fait, IBM a loupé le virage. IBM était le leader du marché à ce moment-là, au niveau informatique, dans les années 1970. Et en fait, Bill Gates, il est venu avec son PC personnel, et IBM, au début, ils n'y croyaient pas trop. Finalement, au début des années 80, IBM s'y est mis, en termes de PC personnel, mais ils ont mis plus de 10 ans pour se dire qu'il y a un potentiel au niveau des PC personnels, puisqu'à l'époque, l'informatique, c'était composé de gros ordinateurs, extrêmement chers, et en fait, IBM maîtrisait toute la chaîne, de la fabrication jusqu'à la vente, la fabrication des processeurs aussi jusqu'à la vente. Donc, ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Voilà. Alors, on va mettre les mots autour de Bill Gates. Ben, je vais commencer par oui, Bill Gates, avec les PC personnels, ben, il a eu une vision. Il a une vision. En disant oui, il y a un potentiel, oui, c'est quelque chose d'avenir, et oui, il faut aller dans cette direction-là. Mais en même temps, si on regarde l'histoire de Microsoft, mis à part ce début de l'histoire du PC personnel, en fait, il a vite été dépassé par d'autres concurrents, dont Apple, dont la pomme, hein, dont la pomme d'Apple. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a été... Enfin, ça a toujours été un défi, je vais continuer comme ça en disant, Apple a toujours été un défi pour Microsoft. Depuis 25-30 ans maintenant, Microsoft est toujours derrière. Et en fait, je ne sais pas si vous avez les annonces, petite parenthèse sur Windows 11, Microsoft, hein, donc Microsoft vient d'annoncer il y a 2-3 mois la sortie de Windows 11. En fait, quand les gens ont vu les écrans de Windows 11 sur Internet, ils ont tous eu des réactions en disant « Ah ouais, mais je retrouve enfin ce que j'avais sur mon Mac il y a 15 ans en arrière. » Ça monte bien, voilà, toujours en arrière. Pourquoi ? Parce que finalement, ben, c'est tout un système qu'elle a derrière, hein, vous l'avez mentionné. Okay. C'est pas facile de changer un système. Et en même temps, le plus facile dans ce cas-là, ben, pour Bill Gates, c'est de copier. Ou pour Microsoft, on va dire. C'est de copier ce que font les autres. Mais copier ce que font les autres, c'est pas forcément une bonne idée, parce que on n'est pas soi-même, finalement. On copie, ok, mais c'est pas quelque chose qui sort de nous et qui nous soutient dans notre vie. Et finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que Apple... Finalement, ils ont surpassé une société comme Microsoft. Et j'ai mis le mot empathie, parce qu'en fait, Microsoft, ils ont fait Windows, ils ont intégré la souris, parce que ce n'est pas eux qui ont découvert la souris. Mais Apple est allé beaucoup plus loin en termes d'écoute des utilisateurs. Apple est allé beaucoup plus loin par la suite sur toute la partie. Je me souviens des premiers, j'ai toujours... la première fois que j'ai vu un iPod, c'est mon frère qui avait un iPod blanc, hein, comme ça. Je dis, waouh, ça c'est le truc révolutionnaire. Et je crois que une année après, même pas, hein, j'ai un collègue qui est allé aux États-Unis, parce qu'on ne les trouvait pas à l'époque en Europe. J'ai dit, tu me prends un iPod pour avoir toute ma musique sur l'iPod. Ça c'est la suite de l'iPod, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Je veux dire, donc, j'ai mis ce point par rapport à... dans notre foi, de dire on a besoin de s'attacher à des choses qu'on ne comprend pas forcément derrière. Et que si on reste dans notre système et si on reste sur les bases sur lesquelles on est, ben on se ferme à beaucoup de choses et on n'arrivera pas à avancer avec Dieu. Et dans ce sens-là, j'ai mis un verset qui est aussi ce fameux verset des Actes. Quand Paul était à Athènes et qu'il s'est mis à prêcher à Athènes, dès le moment où il a commencé à parler de résurrection aux Athéniens, d'accord, ben, il y a eu ce genre de choses-là qui dit « Pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ? Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Nous voulons savoir ce que cela signifie. » Donc ça, c'est le début de Paul quand il prêche à Athènes. Et je me dis, on a besoin, dans notre système, on a besoin... d'ouverture, on a besoin de s'ouvrir à Dieu, on a besoin de lui laisser un espace pour qu'on aille de l'avant et pour qu'on évolue. Sinon, on va rester dans le même système pendant des années. Et puis, ça peut, c'est une routine, hein, ça peut tourner. Notre foi, elle peut tourner comme ça. Mais en fait, elle manque de fraîcheur et elle manque de vision et elle manque d'innovation. On peut passer au suivant. Ah oui, voilà. Hein, ma petite main. Bionique. La sorcière. La sorcière de Blanche-Neige, qu'est-ce que ça évoque? Bon, rapidement, deux, trois mots.
La tromperie.
La tromperie. La jalousie.
La jalousie. Ouais. La laideur.
La, la laideur, oui, ok. Alors. L'avidité, l'obscurantisme. Frédéric. Voilà, donc j'ai mis un tas de choses. J'ai commencé par la déception. Parce que cette sorcière, avant qu'elle soit sorcière, c'était qui? C'était la reine. Et la reine, c'était la plus belle du royaume. Sauf qu'un jour, ben, il y a eu quelqu'un plus belle qu'elle. Et en fait, ça commence, voilà, souvent, on a une attitude qui devient négative par rapport à notre foi aussi, parce qu'on peut avoir une déception au début, en disant j'ai été déçu, j'avais des attentes et j'ai été déçu. Dans le cas de la reine, c'est aussi une histoire de pouvoir, en fait. Elle voulait absolument garder le pouvoir sur son royaume. On l'a mentionné, la jalousie du fait que Blanche-Neige était plus jeune et plus belle, la rancune. Et finalement, en étant dans ce monde-là de déception, de jalousie, de rancune, finalement, on commence à manipuler soit sa propre histoire avec Dieu, soit créer du mal à l'intérieur d'une communauté, par exemple. En manipulant les choses ou en faisant croire des choses qui ne sont pas exactes. Hein. Si on prend l'histoire de la pomme empoisonnée, c'était une très belle pomme, mais en fait, voilà, le fond, elle savait parfaitement que dans cette pomme, il y avait du poison. Et finalement, ça aboutit à une situation de mort. Et je me dis, la solution, c'est de s'accepter tel qu'on est, c'est d'accepter ses forces, c'est d'accepter ses faiblesses, c'est d'accepter le fait qu'on est toujours pécheur, qu'on tombe, qu'on s'éloigne de Dieu, des fois. Et en même temps, c'est d'arriver à s'aimer dans ces situations-là, où on n'est pas très reluisant et beau à regarder, en fait, mais ça n'empêche pas de s'aimer. Tu peux mettre le verset. Voilà, et comme on l'a eu dans la louange ce matin, j'ai mis un verset qui est « Mais ce que j'ai contre toi, dit Dieu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En fait, cette sorcière, c'est quelqu'un qui, petit à petit, c'était la plus belle du royaume, elle avait un avenir brillant, mais petit à petit, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Et je me dis, elle s'est desséchée à quelque part. Et c'est un rappel pour nous de garder notre fraîcheur avec Dieu, de garder notre authenticité aussi avec Dieu. Et je me dis, Dieu, j'ai eu de la peine à trouver une image pour cette sorcière, mais finalement c'est une main d'homme avec une main de femme. Et je me dis, Dieu, il est toujours prêt, à même quand on est dans des situations de ce type-là, à venir à notre secours. On passe au suivant. Un fameux couple. Qui est ce couple? Donc, Stéphania vous a donné une piste au début en parlant de grec. J'étais très fier parce qu'en fait, quand ce dessin il est paru sur le réseau LinkedIn, moi je l'ai vu sur LinkedIn, réseau professionnel, où en fait il est paru parce que les gens disaient ben voilà les différents points de vue différents qu'on peut avoir au sujet d'une situation. En fait, il y a eu plein de discussions sur qui est ce couple. Voilà, Hélène et Paris. Et j'étais très fier de l'avoir trouvé. J'étais un des seuls, effectivement, sur Internet en disant c'est Hélène et Paris. Pourquoi c'est Hélène et Paris? C'est l'homme à la pomme, oui. Alors, je l'ai écrit ici parce que c'est compliqué, hein, les histoires des Grecs sont compliquées. Ok. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe. Aux noces de Pélée et de Thétis sur l'Olympe. Donc on parle de dieux grecs, etc., de mythologie grecque. Tous les dieux sont invités, sauf une personne. Sauf une déesse qui s'appelle Eris, et cette déesse Eris, c'est la déesse de la discorde. Et pour se venger, elle arrive au festin et elle jette une pomme d'or comme ça au milieu du festin. Et sur la pomme d'or, c'est marqué à la plus belle. À la plus belle. Et il y a trois déesses à ce moment-là qui revendiquent ce fruit, qui sont Héra, Athéna et Aphrodite. Mais elles se disputent entre elles pour savoir qui est la plus belle. Et à ce moment-là, Zeus, il ordonne à Hermès d'emmener des déesses sur le mont Ida, et en fait, il demande à Paris, qui était un prince troyen, il demande à Paris de désigner la gagnante, de dire qui est la plus belle de l'Olympe. Et en fait, Paris, il s'arrange avec Aphrodite. Et finalement, Paris, il désigne Aphrodite comme étant la déesse qui est la plus belle. Aphrodite, qui est la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Pourquoi est-ce qu'il s'arrange avec Aphrodite? Parce que Aphrodite, elle lui a promis l'amour en contrepartie de la plus belle femme du monde. Et cette plus belle femme du monde, c'est Hélène. Sauf que Hélène est mariée, d'abord. Et Hélène, elle est, pas grecque, elle est troyenne. Et en fait, cette histoire d'Hélène et Paris et de la pomme de discorde, c'est le début de la guerre de Troie. C'est le début, c'est l'origine de la guerre de Troie, en fait. Donc tu peux mettre les mots qui sont là autour. Hein ? Voilà. Donc effectivement, discorde, beauté, beaucoup de narcissisme. Hein, on se regarde soi-même, on est dans son petit monde et c'est à qui est mieux, on va dire. Beaucoup d'imprudence, beaucoup de manque de sagesse aussi, finalement. En faisant des choix de vie, en fait, de manière aveugle, sans se rendre compte que finalement, le choix que je fais là, bah, il a une implication qui va déboucher sur une guerre, qui va durer, je ne sais pas combien d'années, mais qui va durer un bon bout de temps. Et beaucoup, finalement, aussi de problématiques de culture, hein. Comme tu l'as dit, turc, grec, ça dure toujours. Et problématique de famille aussi, puisque c'est une destruction de famille, hein, c'était tout, il y avait des couples, etc. Donc plein de problématiques et plein de destructions. Et notre expérience, des fois, dans notre vie chrétienne, elle peut être de ce type-là. Elle peut être notre foi, les choix qu'on fait peuvent amener des problèmes et peuvent amener de la division. Ça fait partie de notre réalité. Et comme verset, voilà, j'ai mis ce verset de Jésus qui dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Parce que finalement, notre foi, le fait qu'on se positionne aussi, bah, ça crée des dissensions. Ça crée plein de dissensions, ça forcément délimite des choses. Et ça peut créer des problématiques. Et on doit vivre avec aussi ces problématiques. Je fais toujours référence à quelqu'un que je connais, qui sont des amis de mes parents, où elle est chrétienne et lui, il n'est pas chrétien. Et ça fait 40 ans que je les connais maintenant, 50 ans que je les connais, 40 ans que je les connais. Et c'est toujours une difficulté à vivre, je veux dire, en même temps, ce genre de situation. Mais ça fait partie de notre réalité et de notre regard sur la pomme, sur notre expérience avec Dieu. Et on va passer. Voilà, donc j'ai mis ici, vu qu'on parlait de narcissisme et de beauté, donc c'est une main de femme, mais c'est quelqu'un qui lui peint les ongles, comme ça. Non, on va parler au dernier, Guillaume Tell et son fils. Deux, trois mots. À quoi ça vous fait penser? Courage. UDC. Liberté, ok. Mythe. Légende. Ok, on va mettre les mots. J'ai mis fidélité d'abord. Être fidèle par rapport à ses valeurs, par rapport à ses convictions. Et quand on relit l'histoire du mythe, de la légende de Guillaume Tell, mais il y a quand même quelque chose qui est à la base. Hein. En fait, il a refusé d'enlever son chapeau devant, ou de saluer le chapeau du bailli. Gessler, il a refusé de faire quelque chose au début, Guillaume Tell. D'accord ? Donc il est fidèle à ses valeurs et à ses principes. Épreuve, puisqu'en même temps, ben, il l'a payé cher, sa fidélité, il l'a payé cher, vu qu'il est emprisonné et qu'il doit tirer cette fameuse flèche sur la pomme. qui sera sur la tête de son fils. On a mis confiance aussi, comme mot. Cette histoire de Guillaume Tell, elle fait aussi penser à l'histoire d'Abraham et Isaac. Hein. On a eu des partages ensemble avec Estefania. C'est un peu la même chose, quoi. C'est une épreuve. On sait qu'on risque de sacrifier ce qu'on a de plus cher derrière. Et en même temps, ben, il faut avoir une confiance dans ce qui va se passer, se dérouler. Courage, vous l'avez mentionné. Puis finalement, je me dis à la fin aussi une grande paix, quand même. Et je me dis, mais dans ce genre de situation, quand on vit ce genre de situation, en fait, si on remet notre situation à Dieu, souvent les gens, les chrétiens disent, mais je suis quand même dans une grande paix, malgré toutes les épreuves auxquelles je dois faire face. Donc tu peux mettre le verset qui est dans Philippiens, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, malgré toutes les circonstances dans lesquelles on vit. Et oui, j'ai mis la main d'un papa avec la main d'un enfant, puisque finalement, voilà, c'est la meilleure illustration de faire confiance à Dieu, c'est d'avoir cette attitude d'enfant en disant, mais toi, tu es mon père et tu me protégeras. On peut passer au dernier personnage, Nestor. Moi, je l'appelais le serviteur. À quoi il vous fait, qu'est-ce que ça évoque en vous, cette image ? Fidélité.
Service.
Franchement, regardez bien Nestor. Impassibilité, moi je dirais. Discipline. Ben moi, je trouve que Nestor... Ah non ! Non, moi, je ne trouve pas blasé. Mais il n'est pas heureux, ça, c'est sûr. Il n'est pas heureux. Hein? Il ne sourit pas. Pourquoi il ne sourit pas ? Il a une tâche à effectuer. Mais... Il a une tâche à effectuer, je suis d'accord. Hein? Il amène une pomme vers quelqu'un. Mais pourquoi est-ce que ça ne le fait pas sourire ?
C'est moi qui dois jouer.
Il amène quoi ? Je suis d'accord, hein, il amène la pomme. Et cette pomme, par rapport à tous les personnages qui sont autour de cette table, elle crée des problèmes. Elle crée des problèmes. Ok ? Donc on va mettre 2-3 mots autour de... du serviteur. Oui, c'est un service. Oui, il faut être fidèle. Mais en même temps, prudent. Prudent. Mais il se rend bien compte hein, de la situation. Donc malgré qu'il se rend compte que je vais amener quelque chose qui peut créer des problèmes à tous ces gens-là, je l'amène quand même. Je l'amène quand même. Mais d'une manière pas... Mais voilà la pomme, quoi. Hein. Il est quand même... Ok. Je l'amène. Et moi, j'ai mis une peur ou une crainte, en tout cas, dans son regard, je trouve qu'il y a une certaine peur ou une certaine crainte. Et comme verset, qui accompagne ça, parce que ça nous concerne aussi, ça fait partie de notre vie chrétienne, j'ai mis ce verset de Matthieu qui dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Donc, oui, il y a un service à faire, mais en même temps, il faut le faire de manière fidèle. Donc quand Dieu nous demande d'être fidèle, quand on ressent la nécessité de le faire, mais pas de manière complètement folle, de manière prudente en même temps.
Il faut être prudent parce que tenir un plateau comme ça, sur trois doigts, une boucle
de cire. Frédéric, tu peux mettre le dernier. Voilà, donc pour ça, j'ai mis la vraie image de... qu'on trouve à la chapelle Sixtine, hein, de cette main, de ces deux mains. Et on peut passer donc, au résumé qui dit, voilà, notre relation avec Dieu, hein, donc pour chacun d'entre nous, c'est une histoire personnelle. C'est basé sur des expériences différentes. Tous ces gens-là, ils ont eu des expériences différentes avec cette pomme, ce qui a amené aussi un regard particulier. Et je pense que c'est important d'être conscient de ça et de le respecter, en disant, oui, on a tous une vie chrétienne, on est tous chrétiens, mais on a tous notre propre expérience de notre relation avec Dieu. Et finalement, je crois que je vous laisse avec trois questions. Pardon. Avant mes trois questions, voilà, donc je vous laisse d'abord avec un verset, puisqu'on a parlé de saveur au début, et ça me semble important que même si toutes ces histoires, elles ont des difficultés, elles ont des problèmes, elles ont toutes une saveur, elles ont toutes du goût, elles ont toutes quelque chose de particulier. Et finalement, je me dis, c'est dans Colossiens, hein, qui dit que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu, pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec propos à chacun. Et finalement, je vous laisse avec trois questions. À la fin, qu'on peut débattre, je propose de faire deux groupes, comme ça. Choisir des questions, si vous avez envie de choisir une question, deux questions, trois questions, c'est égal. Mais la première question, c'est quelle est la saveur de Dieu en ce moment pour toi ? Hein, donc ces temps, quelle est la saveur de Dieu pour toi ? Après, une question un peu plus... comment dire ça ? Provocatrice. En disant, la pomme, est-ce que c'est un fruit dangereux ? Donc interprétez-le en disant... Dieu, est-ce que c'est un fruit dangereux ? Oui, non, dans mon expérience ou pour les autres. Hein? Parce que finalement, la pomme ici, c'était un fruit un peu dangereux pour toutes ces personnes-là. Et puis, dernière question, que comprends-tu par un serviteur fidèle et prudent ?